qui collabora à une série très appréciée de voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France à partir des années 1920, se décrivait comme un voyageur obscur mais religieux au travers des ruines de la patrie, un pèlerin en quête d'un dieu. Chaque tome de cette collection était illustré de magnifiques gravures de ruines infestées de chauves-souris et couvertes de lierre sous les cils d'orage. Les dentelles de pierre déchiquetées de l'abbaye de Jumièges, dont on continuait de démembrer les restes pour les vendre morceau par morceau, semblaient appartenir au même passé oublié que les vestiges romains d'Orange livrés à l'abandon. Ce récit s'adressait moins à un public savant qu'à un lecteur sensible à l'art. Ce voyage n'est pas un voyage de découverte, c'est un voyage d'impression. Par bonheur, les éditions dominées pour Charles Nodier, Victor Hugo et d'autres écrivains modernes. Les ruines n'étaient pas simplement la caisse de résonance de l'âme romantique, mais des indices de l'identité nationale qui méritaient d'être étudiés et préservés. Le sauveur de nombreuses églises et monuments qui sont désormais des étapes incontournables d'itinéraires touristiques fut Prosper Mérimée, l'auteur de Carmen. En 1834, il inaugura le poste d'inspecteur général des monuments historiques. Entre 1834 et 1852, il passa près de 3 ans sur les routes pour découvrir ce que l'on appelle aujourd'hui le patrimoine et batailler contre les autorités locales qui tenaient les marteaux de démolition pour les instruments du progrès. Il eut à endurer de longues soirées ennuyeuses dans de misérables trous et des dîners officiels qui ne lui laissaient plus le temps d'évaluer par lui-même les attraits des femmes locales. Il se rendit en Auvergne et en Corse, il harcela des hommes politiques à Paris et parvint à faire inscrire près de 4000 édifices à la liste des monuments historiques. Sans lui, une compagnie de chemin de fer aurait abattu le pont d'Avignon. Les basiliques de Vézelay et de Saint-Denis, les cathédrales de Strasbourg et de Laon et les quartiers entiers de nombreuses villes médiévales auraient disparu à jamais. À l'heure où tout le monde est d'accord avec Mérimée, on imagine mal la solitude dans laquelle il œuvra. Jusqu'en 1870, un magazine populaire relevait que les maisons médiévales à pignon pointu et à charpente apparente étaient encore très courantes dans de nombreux villages normands, mais que très peu méritaient d'être préservées. Je cite, « Elles ne conviennent plus guère aux besoins de la vie moderne. Si elles reposent la vue de la platitude du plâtre et de l'insignifiance du moellon, elles appellent à l'esprit des époques médiocrement heureuses, les existences rétrécies et comme ratatinées. » Fin de citation. La plupart de ces vieilles maisons seraient détruites par les bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale. Les rares qui en réchappèrent sont aujourd'hui des objets d'une vénération qui confine au fétichisme. Parallèlement, des bâtiments encore plus anciens qu'avaient identifiés les ruines sont toujours délaissés et malmenés. Les antiques cabanes de pierre qui dominent les plateaux du Causse, comme des guérites délaissées, sont jonchées d'étritus. À Bagneux, un énorme dolmen est enfermé derrière des grilles de métal tel un ours en cage. Les mégalithes préhistoriques étaient plus appréciés des voyageurs romantiques que nos contemporains, peut-être parce que leur beauté tient moins à des détails architecturaux qu'à une subtile alliance avec le paysage. Dans ses notes sur l'ouest de la France, Mérimée évoquait les destructions infligées par l'Église catholique et ses symboles de culte païen, mais il remarqua également une forme plus récente d'iconoclasme qu'une longue et ignominieuse carrière attendait. Ouvrez les guillemets. Les ponts et chaussées leur ont fait subir une persécution bien plus rigoureuse que les conciles que je citais tout à l'heure. Depuis mon voyage dans le Morbihan, on a cassé les plus beaux menhirs d'Erdeven pour ne pas faire dévier une route de quelques mètres. Fermez les guillemets.